Nicolas Lahaye et Philippe Roizès. Philippe, tu as la parole. Est-ce que je te laisse te présenter tout seul comme un grand ?
Oui. Bonjour. Je m'appelle Philippe Roizès. Je suis essentiellement réalisateur de documentaires. Et on va dire que j'ai eu moi-même un parcours dans la scène punk. J'ai choisi aujourd'hui de parler de l'album Macadam Massacre, d'en évoquer son contexte, sa forme et quelques petits mots sur les débouchés après l'album. Mais c'est essentiellement Macadam Massacre qui m'intéresse. D'habitude, je fais plutôt un plan détaillé et je me laisse aller à dire ce que j'ai à dire sur la chose. Là, j'ai préféré écrire un texte précis. Donc, contrairement à d'habitude, je vais le lire. Certes, le groupe Berrerie Noire avait déjà quelques enregistrements à son actif avant de sortir un premier album. Et son histoire fut loin de s'achever à ce moment-là. Mais Macadam Massacre offre sans doute la version la plus aboutie d'une vision, à la fois sombre et combattante, développée dans ses premières années d'existence. Voilà pour les considérations me semblant objectives. Soyons nettement plus subjectifs et n'hésitons pas à affirmer qu'il constitue le meilleur de ce que le groupe a conçu et enregistré. Pessimisme combatif, du titre de ma communication, était une émission de radio diffusée nuitamment sur les ondes parisiennes de Radio Cité 96, au début des années 80. Lydie Barbarian, également fondatrice du fanzine Burning Rome, et Viad Dialectics, chanteur à cette époque du groupe The Brigade, en furent les animateurs. En passant des disques de groupe punk et de ce que l'histoire retient par le nom de post-punk, le ton à la fois ténébreux et rebelle était donné. Ténébreux et rebelle, l'album Macadam Massacre est fait de ce même bois entre noirceur, conscience et refus de se soumettre. Macadam Massacre ne sort pas dans n'importe quel contexte et n'est pas le fruit de n'importe quelle rencontre. On peut donc parler d'un contexte historique, politique, social et personnel qui a vu naître un produit de son époque, entre 83 et 84, de la gestation à la diffusion de l'album. Donc, on va commencer par le contexte. Et j'aborde tout de suite le contexte historique. Les années 60 ont vu se développer l'influence des théories révolutionnaires par de nouveaux courants de pensée et des développements issus d'autres continents que l'Europe. En 1968, une contestation aiguë s'incarne non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, au premier rang desquels les États-Unis. Elle semble dessiner la jeunesse comme une nouvelle figure révolutionnaire, secouée par des courants libertaires ou des avatars de plus en plus durs du léninisme, matinée d'expériences africaines, asiatique, d'Amérique centrale ou du Sud. Le modèle orthodoxe de la révolution prolétarienne, incarné jusque-là par l'Union soviétique, est mis à mal. Mais au fil des années 70, intervient une crise de confiance et une critique des modèles révolutionnaires internationaux. Les différentes révolutions dites communistes, qu'elles soient soviétiques, chinoises, cambodgiennes ou autres, apparaissent de moins en moins séduisantes. L'incapacité à aller au-delà des succès de l'éradication de la malnutrition et de l'analphabétisme pour les uns, une logique implacablement mortifère pour les autres, la découverte des réductions des libertés et d'univers concentrationnaires pour presque tous, semble décrédibiliser l'ensemble des idéaux révolutionnaires. En Europe de l'Est, là où il y avait des tentatives de voie médiane, toutes les expériences ont été successivement reprises en main par l'Union soviétique. Et sur la scène internationale, les tensions s'exacerbent entre États-Unis et Union soviétique, avec en toile de fond la course aux armements et la menace d'une guerre nucléaire. Le contexte politique. En France, durant les années 70, se développent d'une part les luttes subjectivistes, supposant de partir de soi, de sa propre spécificité et de sa propre condition, telles que le féminisme, l'identité homosexuelle, la remise en question de la psychiatrie, également des expériences de vie alternatives, communauté, retour à la terre, nouvelles formes de mode de vie amoureuse et de parentalité. Et enfin, des formes plus radicales se pensant prêtes à l'affrontement frontal, gauchisme, autonomie, lutte armée. Mais la fin de cette même décennie voit le naufrage de nombreuses expériences. Au tournant des années 80, les luttes subjectivistes perdent de leur côté révolutionnaire. Du côté des tentatives alternatives, si certaines se sont pérennisées, la plupart ont tourné court. Nombre de communautés ont implosé sous le poids des contradictions, des égoïsmes et des drogues dures. Le modèle du couple et de la famille classique s'est majoritairement imposé de nouveau à ceux qui avaient tenté d'autres aventures. Enfin, beaucoup de néo-ruraux se sont heurtés à la méfiance et à l'hostilité des populations locales et ne possédaient pas les savoir-faire nécessaires. Quant aux tentatives nouvelles du mouvement révolutionnaire, elles se sont soldées par un reflux, voire un effondrement. Les organisations d'extrême-gauche se sont sabordées ou se sont réduites à peau de chagrin. Le mouvement autonome, qui entendait à la fois dépasser ces dernières et faire s'effriter la société capitaliste par une multitude de coups de butoir, a vu ses troupes disparaître ou se recycler dans des formes moins brutales. Quant aux groupes de lutte armée, la mise en échec des expériences de la fraction armée rouge en Allemagne et des brigades rouges en Italie en a échaudé beaucoup jusqu'en France, laissant Action Directe à un isolement croissant. À gauche de l'échiquier politique, une redistribution des cartes s'opère. Réduction du secteur primaire et fin de l'usine comme principal lieu d'organisation, perte de pouvoir d'achat et chômage affectant les ouvriers et les petits salaires, qui entraîne la lente érosion du Parti communiste français. Quant au Parti socialiste, longtemps traversé par des influences post-mai 68, comme l'autogestion par exemple, il opère peu à peu sa mue, à la fois confronté depuis 81 à l'exercice du pouvoir et optant pour une mise en conformité avec l'état d'esprit gestionnaire de la communauté européenne, qui est désormais l'Union européenne. Contexte économique et social. Si on parle d'économie, les mutations amorcées dès les années 60 dans la France de De Gaulle deviennent de plus en plus visibles avec les restructurations industrielles. Dès lors, la sidérurgie, les mines, le textile et d'autres industries autrefois florissantes voient leurs unités de production se réduire et fermer pour affronter la concurrence et s'adapter aux mutations du capitalisme. Cet électrochoc, suivi d'une grande réorganisation du travail, matinée d'expériences de management américaines, perturbe les habitudes culturelles et politiques du monde ouvrier et des employés, et les meurtrit par les licenciements. À cette atomisation, il faut ajouter l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, qui a pour conséquence un relâchement de la combativité du mouvement social jusqu'à son délitement. Contexte personnel. François et Laurent, noyaux durs de Berruyer Noir, sont tous les deux issus du bas de la classe moyenne, avec sans doute une certaine attention sociale pour leur famille. Ils sont passés de l'enfance à l'adolescence dans le contexte que je viens de décrire. De manière consciente, mais également inconsciente, ils n'ont pas été insensibles aux bouleversements de toute nature soufflant sur la société française. Leurs parents furent des témoins, peut-être même des acteurs de mai 68, ont vu les femmes élever la voix et conquérir des droits, et ont sans doute libéralisé leur manière d'aborder la parentalité. François et Laurent se sont intéressés aux évolutions politiques et culturelles ayant secoué la France et le monde. Le rock, l'extrême-gauche au sens large, l'autonomie en particulier, les modes de vie alternatifs les ont traversés, ne serait-ce que par des lectures, des discussions ou la fréquentation des squats. Ils font partie d'une génération pour qui les révolutions, longtemps érigées en modèle, ont perdu de leur pouvoir de séduction. Enfin, Laurent a fréquenté le collège de Crolly, expérimentant une éducation nouvelle plus souple que celle promue par l'éducation nationale. Et les lycées de la seconde moitié des années 70 connaissent toujours une certaine effervescence, peut-être moins forte que les années précédentes, mais ils constituent toujours un lieu de bouillonnement épris de liberté. Ça, c'était pour la première partie. La deuxième partie, on va rentrer dans le cœur du sujet, le contexte, et maintenant en quoi ce contexte a dû, consciemment ou inconsciemment, influencer cet album. Donc c'est dans ce contexte que se forme Berruyer Noir et que se construit l'album Macadam Massacre, et s'entend la forme qu'il prend. Alors on va commencer par la pochette. Alors le ton est donné avec la pochette, au recto une photo en noir et blanc sur laquelle on peine à voir facilement tous les détails, jusqu'au paysage urbain, assez flou. Deux personnes à l'extérieur d'une voiture, une troisième installée à l'arrière de celle-ci, en aucun cas un groupe de rock posant de manière explicite. Un nunchaku et une guitare comme accessoire de combat, le titre évoque bien sûr la ville, l'espace urbain, la violence. Quelques points de référence. En même temps, nos imaginaires pourraient faire cadrer cette pochette avec les drames lyriques d'un théâtre no électrifié, théâtre japonais, donc c'est les masques en particulier, ou un polar des années 70 assaisonné par Jean-Patrick Manchette, qui a été un peu le renouveau du polar, avec comme toile de fond une banlieue un peu sombre. Et il se trouve qu'en plus, Jean-Patrick Manchette a écrit un polar qui s'appelle Nada. Au verso, François et Laurent, stylisés par un dessin assurément peu conçu pour les enfants, masque et gueule cassée, drapeau noir des pirates, blouson de cuir, jean troué, gros godillot. Et puis en arrière-plan, une croix. Sorte de version amaigrie et oblique de celle de Casimir Malevitch, qu'on voit ici, entravant largement la pochette. À l'intérieur, des dessins portraits des deux mêmes protagonistes, les lunettes noires de l'un et un masque proche de la camisole de force, préfigurant le Hannibal Lecter du Silence des agneaux, obstruent les deux visages, tandis que les textes s'écoulent en encre noire. Un album sombre, Macadam Massacre est un album extrêmement sombre, à tel point qu'aucun autre enregistrement ultérieur ne l'est autant dans le reste de la discographie. Tout d'abord, le choix de faire un groupe à deux impose une certaine claustrophobie, renforcée par les claquements froids et déshumanisés de la boîte à rythme. La voix, souvent lointaine et noyée, est parfois éraillée, parfois dégueulante. Elle est même de temps en temps au bord du couac, comme on serait en équilibre au bord du gouffre. Cette brisure, elle apparaît un défaut chez les musiciens, mais elle participe ici à l'effondrement ambiant. Sur le morceau introductif, sobrement intitulé « Macadam Massacre », François utilise un langage obscur, non sensique. Il devient vite malaisant pour toute personne en perte de repère si elle ne sait pas décoder le langage ou découvre qu'il n'offre même aucune clé de déchiffrage. Que veut-on me dire ? Une sirène stridente renforce un sentiment d'oppression déjà palpable. Et puis, il y a les mots. Racisme, prison, police, état de siège, coup de feu, société de fric, mort, assassinat, condamnation à mort, injustice, guillotine, guerre, armée, suicide, violence, mal dans ma peau, massacre. Un enchevêtrement lexical qui renvoie à un univers proprement invivable et asphyxiant. Parmi les auditeurs, il y a ceux qui avaient déjà bien ressenti cette température sociale, et puis il y a les autres, ceux qui n'en ont pas conscience, pas encore conscience. Les images frappent, les horreurs font peur, la nuit est noire, la poisse palpable est traversée par des compagnes poignardées et des chiens qui dévorent. Le tout sans doute dans un décor de cité de banlieue, pas si loin de la capitale. Johnny revient de la guerre, aussi entre les westerns américains, constamment diffusés à cette époque sur les écrans télévisés, durant l'adolescence de François et Laurent, sur France 3 en particulier, enfin FR3 à l'époque, et une référence à Johnny s'en va en guerre, dont vous avez l'affiche du film, film antimilitariste américain de Dalton Trumbo, une histoire sans échappatoire pour son anti-héros, et s'achevant par la phrase « Il est doux et glorieux de mourir pour la patrie ». Quant au texte de Frères d'armes, il est extrait de la bande dessinée politiquement incorrecte, Folle et Anard. Alors je ne sais même pas si on dit les aventures de Al Crane ou Al Crane, mais en tout cas, de Gérard Lozier et d'Alexis, dont vous avez un extrait ici. Macadam Massacre est un album minimaliste, en rupture évidemment avec le rock progressif, savant et finalement très adulte, qui a pris forme dans le sillon du mouvement psychédélique. Mais c'est également un pied de nez à l'orthodoxie punk, oxymore bien réel. Tant la formule guitare-basse-batterie s'est imposée. Ici, la boîte à rythme que possède le groupe à l'époque ne peut pas avoir la complexité d'un jeu de batterie humain. Mais elle s'autorise parfois des expérimentations qu'aucun batteur ne pourrait faire sonner ainsi. Laurent à la guitare n'a jamais voulu être freiné par son manque de technique. Il assène des riffs hybrides, entre punk et quelques influences du rockabilly, très prisées encore à l'époque par François, dans un style qui deviendra la marque de fabrique Berruyère. Les Larsen cisaillent occasionnellement le paysage sonore et sont préférés de loin au solo. On va à l'essentiel. Et puis au niveau musical, pas de basse, pas de clavier, pas de chœur, rien d'autre ou presque, juste les interventions au saxophone de Masto, loin de constituer une chatoyante section de cuivre. Macadam Massacre est un album combatif, car paradoxalement, cette noirceur et ce minimalisme se mettent au service d'une gigantesque pulsion de vie. Prendre le temps de créer, d'enregistrer, constitue en soi une démarche positive. De même que tout ce boucan, ces riffs, ces cris s'avèrent autant d'appels à vivre, à déchirer les coquilles personnelles et à abattre les murs extérieurs. Le son ouvrant le morceau « La nuit noire » peut être interprété comme un battement de cœur, la musique, une fois enregistrée, appartenant aux auditeurs. Dans le titre qui clôt l'album, « Noir les horreurs », les salves, salvatrices de saxophone, résonnent comme des explosions tonifiantes, des odes à la respiration, à l'accord avec soi-même, dans un monde hostile, au refus comme moteur. Les textes de François ne disent pas autre chose. On entend résonner les mots jeunesse, se battre, liberté, fraternité, amour, beauté, douceur, certes temporisés par la mort, comme pour nous rappeler le caractère précieux de la vie. Et puis la haine peut constituer un marchepied pour construire. Arracher un drapeau, symbole d'horreur commise au nom du patriotisme, est à entendre comme une action positive. Les souvenirs peuvent relier à une histoire et donc à une humanité. Le sentiment d'avoir peur prouve qu'on est encore vivant. Quant au morceau manifeste, il crée une évidente rupture avec cet exercice politique classique, ici plus humain qu'idéologique. Les mots s'avèrent durs, appelant au suicide de soldats pour permettre à l'humain de vivre, mais ils se gorgent d'émotions. Il est question de provoquer une fin pour créer autre chose, avec en écho l'influence d'un communisme libertaire qui serait enfin débarrassé des tentations autoritaires, des trahisons et des révolutionnaires professionnels devenus monstres froids. Le peintre Pierre Soulages, dont on voit une des œuvres ici, qui n'utilise que le noir sur l'ensemble de ses toiles, explique « Ce qui m'intéresse, c'est cette qualité particulière de la lumière quand elle est réfléchie par le noir. » Blixa Bargeld, chanteur du groupe allemand Einstürzende der Neubauten, ce qui veut dire « effondrement de bâtiments neufs », figure de la musique industrielle, affirmait ne pas se sentir d'affinité avec une partie de son public se complaisant dans les couleurs sombres et la décadence cultivée par mimétisme. Il pensait que ces gens n'avaient pas compris pourquoi son groupe déchaînait autant de passion à froisser de la tôle, frapper des caddies ou des plaques de métal, faire crisser une scie électrique. C'était pour créer une pulsion de vie et non pas célébrer la désespérance, l'agonie et la mort. Il en est de même avec Macadam Massacre, qui ne dit pas autre chose. Les débouchés. Ce n'est peut-être pas un hasard si les dernières envolées et volutes de saxophone s'évanouissent à la fin de la phase B, comme pour augurer d'une suite. Le futur a fait déboucher le groupe de la claustrophobie jusqu'au boutiste et en recherche de lumière vers une combativité plus positive et des formes plus festives et colorées. Cette évolution peut traduire une sortie enfin achevée de l'adolescence, âge du malaise, de la recherche et de l'outrance. Elle peut transcrire aussi une envie de participation au-delà de la haine et de la critique. Ce sont les années où Berruyer Noir gagne en succès, est invité en radio et à la télé, invite des associations ou des groupements informels, culturels, politiques, à utiliser l'espace des salles de concert pour donner une visibilité à leurs activités. C'est aussi le moment où le groupe soutient des causes nobles et s'inspire du cirque, autant de manières de positiver leur démarche. Laurent eut d'ailleurs à l'époque une discussion informelle avec Michel Rocard, chose sans doute qui n'aurait pas pu se produire quelques années auparavant. La France a changé durant les années 80. Lorsque François Mitterrand accède à la présidence de la République, une partie du mouvement social est persuadée que ses idées étant relayées par le gouvernement socialiste, il n'est plus utile de se mobiliser. Partis de gauche et syndicats s'interdisent de critiquer l'action gouvernementale afin de ne pas le gêner. Et au sein des tendances les plus radicales de l'échiquier politique, la répression de l'extrême gauche illégaliste en Italie en a échaudé beaucoup, qui accepte désormais les règles de la démocratie parlementaire, tandis que les tenants de la lutte armée se radicalisent à partir de 1982 et s'isolent. Le gouvernement socialiste fait rapidement le lit du libéralisme. Les conditions économiques des franges de la population les plus modestes se dégradent, les inégalités redoublent. Mais les radios libres, les enfants du rock à la télévision, la reconnaissance du rock par le ministère de la Culture, l'ouverture des salles de concert, l'arrêt de la criminalisation de l'homosexualité, l'abolition de la peine de mort, ont semblé rendre l'air plus respirable que sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Peut-être de manière inconsciente, l'évolution musicale et de l'image de Berruyer Noir traduit également ce nouvel air semblant moins vicié dans la France plus ouverte des années Mitterrand. Petite conclusion personnelle. Un jour, j'ai confié à François pourquoi mon album préféré demeurait Macadam Massacre, pourquoi je trouvais que Concerto pour détraquer était artistiquement courageux, et pourquoi Abracadaboum ne me parlait absolument pas. Ma réflexion lui a suscité ce commentaire qui est très juste. « Tu n'as plus aimé Berruyer Noir lorsque nous sommes passés à la couleur. » Sans doute, parce qu'à mes yeux et à mes oreilles, la farce prenait le pas sur la recherche de la lumière. Tout ce qui révulsait les membres du groupe au début des années 80 et a accouché de l'album Macadam Massacre est lié à une époque. Mais au fond, cette même logique économique et sociale carnassière demeure puissamment présente, provoquant toujours davantage d'horreur. Artistiquement, et cela n'empêche pas de rire, le noir me semble toujours un bon choix. Je vais finir, et encore de manière plus provocatrice, avec une citation de François dans une interview. Au début, on ne se prenait pas au sérieux, on essayait seulement d'exorciser un mal-être. Puis il a fallu se prendre au sérieux, évidemment. C'est pour ça qu'on a déconné après. fallait arrêter tout de suite. Eh bien, je suis de cet avis, ce qui n'est pas un manque de respect pour Titi, qui doit être dans la salle. L'aventure qu'elle a vécue était sans doute extraordinaire, c'est juste que moi, personnellement, elle ne me parle pas. Voilà, j'en ai fini.
En fait, c'était pas de verso.
Quoi ?
C'était pas de verso, sur ce que tu... Ok, alors merci pour cette communication et cette prise de position courageuse.
Oh, je veux pas me prendre des canettes, normalement.
Non, mais je crois que c'est intéressant parce qu'on retrouve ce qu'on voit depuis le début du colloque, c'est-à-dire que cette la difficulté de cette alternance entre positivité et négativité, et ça apporte quelques éléments de réponse aussi. À un moment, pour certains, il faut basculer vers autre chose, et pour ceux qui restent, c'est la dénaturation de la pureté initiale.
Je suis pas dans ce discours-là, moi.
Moi, j'y suis. Moi, j'y suis. Moi, je okay. fais mon analyse de ce que j'ai entendu. Et après, on ouvre le débat où on pose des questions pour comprendre un petit peu mieux les positions de chacun. Ouais, il me semble que il y a un débat qui se poursuit autour de ces questions.
En train de dire que dans le contexte actuel, ça rappelle beaucoup ce que vous venez de nous raconter quand même. Peut-être qu'il y a un avenir pour une musique qui arrivera derrière.
Oui, ben ça, je suis pas devin, mais de toute façon, le basculement... moi, ce que je trouve incroyable dans Macadam Massacre, c'est justement cette forme extrêmement noire avec une recherche de la lumière constante. Il faut juste gratter un peu pour s'en apercevoir, mais ça saute aux oreilles et aux yeux. Et des groupes qui creusent ce sillon-là, il y en aura toujours de toute façon. Après, moi, je suis pas du tout là pour dire que ce qui est, enfin, Concerto pour Dotaque, je trouve que c'est un album hyper courageux, tellement il est déjà une rupture avec avant, et je le trouve assez intéressant. Mais après, il m'apporte pas les choses aussi fortes que j'ai pu trouver dans Macadam Massacre. C'est juste ça. Mais oui, alors l'histoire du contexte, bon. Moi, le fameux adage populaire, l'histoire se répète, j'y crois pas, ça se répète jamais totalement, c'est toujours un peu différent. Après, oui, il peut y avoir des choses qui
bousculent. Une émergence.
Il peut y avoir des choses qui bousculent l'actualité, bon, on l'a vu là, qui peuvent nous rappeler ce qui s'est passé avant, mais il y a plein de choses dans le contexte qui sont totalement différentes. Mais de toute façon, tout ce qui. Enfin, je veux dire, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, tout ce qui oppresse, angoisse. Fait en général créer des choses qui peuvent être extrêmement primales ou extrêmement intéressantes. C'est un schéma assez classique, finalement.
Je me rappelle que François, qui faisait une signature d'un de ses bouquins, j'oublie le nom, c'est un tout petit recueil, enfin c'est un tout petit texte, il y a quelques années. Comment ? Ouais, voilà, exactement, je t'en remercie. On lui posait un peu justement cette question, et il paraît de ce passage du noir à la couleur, et aussi du duo à une formule plus ouverte, multiple, et donc tu passes du dual au multiple, et je ne sais pas comment toi tu peux amener des éléments à la salle. Sur ce passage-là, ça explique aussi peut-être ce changement de formule.
Oui, sans doute. J'imagine, de toute façon, plus il y a des gens qui s'agrègent, ouais. Plus ils amènent des éléments nouveaux. Je pense aussi que là, creuser finalement le sillon de la noirceur pendant des albums et des albums aurait été extrêmement artificiel. Eux-mêmes, changer d'âge, changer d'époque, rencontrer des personnes nouvelles. Je veux dire, moi, le statisme ne m'intéresse absolument pas. Je trouve ça parfait qu'ils aient évolué vers autre chose. Et je pense effectivement, plus il y a eu le fait que ça devienne presque plus une troupe qu'un groupe, a dû jouer aussi énormément, a dû jouer aussi comme une espèce de bouffée d'air pur. Ça c'est sûr que c'est des choses qui ont changé la donne pour ce qui a été créé plus tard. C'est finalement assez naturel. Et même, je veux dire, Hans Jordan Neubotten que je citais, n'est pas resté dans le côté purement, entre guillemets, musique industrielle du début.
Ils
se sont ouverts vers ce que Enfin, je veux dire, des gens extrêmement profanes pourraient dire, c'est pas de la musique avant, c'est devenu de la musique après. Mais je veux dire, le mur, on peut pas être la tête contre le mur toute sa vie, quoi.
Faire du marteau-piqueur.
Oui. Donc, c'est assez naturel de chercher d'autres formes. Ça aurait été, je veux dire, c'est un peu par provocation que je dis, si les Bérus s'étaient arrêtés après Macadam Massacre, ça aurait été parfait. Mais ce que je veux dire, au final, ce qui aurait été pire, c'est qu'ils fassent 10 albums Macadam Massacre, ça aurait été désastreux, quoi.
Tout à fait.
Ils ont eu quand même à chaque fois l'intelligence et le courage artistique de tout le temps avoir des albums différents.
Renouveler.
D'ailleurs, il y a une espèce de retour avec le dernier album de Perruerie Noire, il y a une espèce de retour à une formule plus entre soi, puisqu'ils sont trois sur le dernier, qui n'est pas Macadam Massacre, mais qui n'est plus non plus ce que moi je caricature avec. Abracadamoum et Turlututu du troisième album, mais c'est, il y a encore quelque chose de différent vers la fin. Donc c'est un groupe qui artistiquement a toujours été honnête puisqu'il a su se renouveler en permanence et s'arrêter, et c'est quand même aussi quelque chose de très important. Ah merde. Bon, on en a pour 2 heures.
Ah oui, disons, quand on fait schématique...
Bonjour,
Marcu. Bonjour. Quand on fait schématique, on risque de faire faux aussi. Je pense que tu as fait se percuter différentes périodes chronologiques, en particulier quand tu as parlé du côté festif, en renvoyant quasiment, en mélangeant ça avec la période de Mitterrand. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et dans l'histoire de la BE, il y a plusieurs ruptures et plusieurs évolutions. Et par exemple, et j'ai constaté ça au niveau des fans aussi. Il y a les fans de la première génération, il y a les fans d'avant aussi, les gens qui étaient de mon âge, etc., qui n'ont pas du tout accroché sur les BRU, par exemple. J'en connais plein, qui sont passés dans le rock'n'roll, dans des trucs garage, etc., et qui ne comprennent absolument pas comment ça fonctionnait. Pour eux, c'est un objet de stupéfaction de voir qu'il y a encore du public qui aime ça. Je pense que la période la plus noire des BRU, c'est celle d'avant, c'est Nada.
Oui, mais tu as sans doute raison. Mais honnêtement, je revendique avec ce que je viens de dire une pure subjectivité.
Ah hein. Ça s'entend, oui.
Non, mais je l'ai dit, tu étais là au début, je l'ai dit dès le début. Ouais.
Hein. Mais je pense qu'il y a. Tu as omis, par exemple, l'importance de Concerto pour les traquer.
Non, mais j'ai décidé de me centrer sur un seul album.
Au niveau des évolutions, c'est clair que, par exemple, quand tu as dit que, tout à l'heure que les Bérus avaient commencé à être invités dans les médias, etc., à l'époque de Macadam Massacre, c'est absolument faux.
Mais non, mais c'est pas du tout ce que j'ai dit.
C'est vraiment largement après. Macadam Massacre a été un déclic quand même, parce que c'est le premier album des Bérus qui a passé les 10 000 ventes. Les 10 000 ventes. Ce qui à l'époque était juste assez extraordinaire.
Oui, bien sûr.
Français, autoproduit et distribué par Duros à l'époque. Et c'est à partir du moment où on a eu ces ventes que des médias ont commencé à se dire il y a quelque chose qui se bouge là. Mais entre le moment où ils ont commencé à en parler et le moment où il y a eu cette fameuse couverture de Best, il y a quand même 3 ans.
Les
choses sont un petit peu lentes.
Tu sais à quel point en 25 minutes on est obligé de. Mais je sais bien.
Les plus puristes, effectivement, sont les gens qui sont sur la génération des fans de Macadam. Mais le plus grand nombre, c'est le moment où le groupe a vraiment décollé et a commencé à faire avoir un public en concert qui était, le double, voire le triple des groupes équivalents de l'époque. C'est vraiment Concerto. Concerto, Porcherie, en même temps, tout ce qui a suivi après avec les Doigts de Vaquer, les Manifs, Malik Ousekine, etc. Il y a vraiment un déclic à ce moment-là où c'est passé dans une globalité vachement plus importante, quand même. Et là-dessus, Macadam Massacre, c'est un peu l'album le plus arty, en fait, pour plein de gens. Plus dépouillé, évidemment.
Pour moi. Par exemple, moi, je ne le vois pas du tout comme
Virginie,
ça.
Virginie, c'est un de ses préférés, c'est clair. Mais toi, tu as Berruyer Noir, donc de cette période. Tu as Berruyer Baston de Concerto. Tu as Berruyer Festif et Tiers-Mondiste de
Abracadabra. Ouais.
Et après ça, c'est à peu près dans la même lignée. Malgré tout, on reste dans un truc qui est coloré.
Un peu plus, je sais pas.
Un peu plus hard rock, oui.
Quoi? Non, mais évidemment que...
Je trouve qu'en général, les gens, et ça, j'ai vu ça également dans les interventions d'hier, ils ne se rendent pas compte qu'en l'espace de 6 mois, 1 an, 3 ans, les chamboulements qui se produisent, ils sont juste extraordinaires. entre les, la période, disons, 79-80, où il y a cette espèce d'entre-deux avec la deuxième vague punk française qui se mélange avec, avec le Punk's Not Dead et puis avec le post-punk, et puis le début des BRU et le moment où il y a l'impact avec les gens qui commencent à organiser des choses et à eux-mêmes diffuser ça, il y a vraiment, en très peu de temps, des tas de choses qui se passent et qui sont concomitantes, sans pour autant que ça soit facile de les de faire le distinguo. Je pense que c'est important d'être subtil.
Une dernière question, alors.
Oui, est-ce que, parce que je pense qu'on se pose tous la question, en fait, de l'évolution, et je pense que ça a presque pour tout, enfin, je parle pour moi, mais peut-être pas tout seul, il y a une espèce de gêne. Est-ce que tu pourrais dire que c'est que la couleur? Parce que je suis pas sûr que la couleur, ce soit... Est-ce que c'est pas aussi autre chose, peut-être, dans les déguisements, dans le côté carnaval, dans le côté... Genre, les
masques? Oui, je parle... Enfin, excuse-moi, vas-y jusqu'au bout.
Ouais. Et genre, est-ce que tu veux dire, peut-être, que il y a quelque chose de mal maîtrisé dans cette envie de changer?
Alors, les influences de la troupe, le cirque et tout ça, je l'ai dit en deux mots, elles sont évidentes. Le passage noir à la couleur, c'est plus symbolique qu'autre chose, finalement. Mal maîtrisé, ça serait, enfin, je veux dire, ça serait dommage de dire « Ah, c'est mal maîtrisé ». Le punk n'a pas vocation à être maîtrisé. On est dans un oxymore incroyable. Moi, mon ressenti personnel, je me souviens... Bon, clairement, à partir... Je crois que le dernier concert des BRU que j'ai vu, c'est 1986. Après, ça ne m'intéressait plus du tout. Mais j'ai regardé quand même le concert au Zénith. Mais t'en as loupé d'autres auxquels je ne t'ai pas vu. Et donc, j'ai regardé le concert, parce que j'étais sentimentalement attaché à ce groupe. Donc j'ai regardé le concert au Zénith. Si on veut parler du côté cirque, par exemple, moi, ce qui m'avait vachement frappé, mais honnêtement, j'ai pas envie de jouer au rock critique, c'est pas la question. La scène du Zénith, elle est gigantesque. Donc il y avait ce côté cirque, mais qui n'était pas répété, qui ne me semblait pas, en tout cas, répété et millimétré, un peu, avec un peu d'improvisation. Et finalement, tu avais un peu l'impression que tout le monde faisait son truc dans son coin, et que finalement, cet espace infini n'était pas tant maîtrisé, justement, et pas tant occupé que ça. Et du coup, bah, finalement, ça a commencé à... Pour moi, hein, ça pêchait, parce que, malgré le nombre, l'espace n'était pas du tout occupé. Donc, là où je te rejoindrais sur le côté... cirque pas maîtrisé, oui, là-dessus, mais je veux dire, la vocation, encore une fois, c'est très important, la vocation d'un groupe punk, c'est pas de maîtriser.
C'est pour ça que je te
demande. Si ce n'est au moins ça, au moins là où je trouve que Béreur et Noir est très fort, c'est qu'ils ont quand même tenté au maximum de maîtriser les prix, et ils ont tenté au maximum de maîtriser leur propre, entre guillemets, je mets mille guillemets, carrière. Et ça, par contre, c'est fabuleux. Mais alors, maîtriser, est-ce que ça doit être bien répété, bien millimétré, ou absolument bien produit ou bien joué? C'est pas vraiment le propos, en fait.
Hein. Justement, c'est pour ça que je te demande. Parce que
mais du coup, j'ai pas compris ce que tu me demandais.
C'est que, justement, c'est quoi le changement qui te dérange le plus?
Parce que je m'en fiche, moi.
Ouais, enfin, je veux dire,
ils vivent leur vie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils y ont pris du bon temps, et c'est parfait comme ça. C'est pas tant, ça ne me parle pas, c'est plutôt ça, hein. c'est pas dérangé, je suis pas dérangé, ça ne me parle pas. Je pense que, encore une fois, je le redis, c'est extrêmement subjectif, il y a aussi un truc qui est lié à mon âge. Quand j'écoute Macadam Massacre, moi-même je suis plus jeune qu'eux, et je suis totalement en déséquilibre, en construction, en recherche, et ça me parle et ça me frappe énormément. Et même si aujourd'hui, je ne veux pas écouter Macadam Massacre tous les jours, ça continue à être un album très, très important pour moi, parce qu'il a été une de ces petites pierres qui m'ont construit en tant qu'adulte. Du coup, il y a aussi sans doute ça. Il y a ma subjectivité, il y a d'autres choses que j'ai découvertes entre-temps. Il y a mon âge aussi qui fait que quand Concerto pour détraquer, je le répète encore, j'ai trouvé que c'était un album courageux et réussi. Mais quand Abracadamum arrive, ça ne me parle absolument plus. Ça ne me dit rien, absolument rien. Ça ne veut pas dire que je comprends les références, les causes, tout ça. Ça, c'est des choses que je peux partager. Je parle beaucoup plus au niveau de la forme. La forme ne me parle absolument plus. Mais je ne peux pas te l'expliquer. Je ne peux pas t'en faire une... Encore une fois, c'est hyper subjectif, quoi. Voilà.
C'est ton ressenti.
Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, ouais, c'est loin de moi l'idée d'aller engueuler quelqu'un en lui disant « Quoi, t'aimes Abracadaboum, cette espèce de merde ?» Non, si ça lui a parlé, c'est parfait. Quoi.
Ouais, mais il n'y a jamais pas de raison explicable, en fait. Là, il y a un petit travail d'analyse à faire pour produire, mettre en avant ce qui, à un moment, parle et ce qui, à un moment, ne parle pas. Parce que on n'est pas complètement dans une construction personnelle qui referme la subjectivité et sur soi et empêche la compréhension par les autres. Là, il y a quelque chose dont tu es un représentant parmi d'autres. Donc là, il y a un symptôme à creuser et il faut arriver à mettre les mots dessus. C'est ça qu'on essaye de faire.
Tu me fileras ta carte pour l'analyse. Ouais,
Et après, pour Abracadaboum, il y a un truc qui est en train de compte. Si tu veux, dans la carrière des BAU, il y a des albums qui sont plus ou moins achevés. Mm-hmm. C'est-à-dire qui ont été conçus, etc. Et à Abracadaboum, en fait, il y a une merde de base au niveau des enregistrements, qui fait que le disque, en fait, ne sonne pas du tout comme ce qu'il aurait dû sonner. Alors, en particulier, il y a eu, enfin, truc très simple, je pense que les guitaristes comprendront, il y a eu un double enregistrement des lignes de gratte sur deux amplis qui étaient hors phase. Donc les phases sur l'opposition, et ça a complètement bousillé le son.
Oui, je veux bien l'entendre, mais
ça joue quand même pas mal.
Sans mauvais jeu de mots, il y a une coloration générale qui, moi, ne me parle pas. Quoi, mais non, mais tu vois, je doute que même avec les guitares en face, ça ait sonné finalement comme Slayer. C'était pas le but non plus.
Non, mais tu vois, il faut quand même rentrer ça
Mais en tant qu'auditeur, à la limite, t'as pas à le savoir finalement. C'était à vous de décider de pas le sortir au final. Quoi, tu vois, en tant qu'auditeur, je reçois ce que je reçois. Quoi. Ouais.
Et quand même, il y a un truc qui n'est pas pris trop en ligne de compte dans le fait que les gens se lient à un tel album, c'est le rapport qu'il peut y avoir avec le public, avec les pairs.
Avec les pairs ?
Oui, avec les gens qu'on fréquente dans une même scène. Pairs, P-A-I-R.
P-A-I-R.
OK. J'ai remarqué une chose, c'est que à partir du moment où des gens s'approprient un groupe, et ça a été particulièrement flagrant avec les BRU, eh ben, quand ils vont appliquer en masse d'autres gens qui viennent leur contester finalement la propriété de l'artiste dont ils sont fans, bah, ça aboutit à un phénomène de rejet qui à chaque fois dit « Ouais, il y a tous ces nouveaux types qui rappliquent, moi ça m'intéresse pas, etc. C'était mieux avant. » Et ça, c'est un truc qu'il y a eu systématiquement.
Si je peux me permettre, j'ai toujours été plus intelligent que ça. Non, mais j'ai jamais eu ce genre de réaction.
C'est un élément à rentrer quand même vachement en ligne de compte.
Fais un dessin.
Mais tu sais, c'est quelque chose dont on se rend
compte. Oui, non, mais je le comprends.
Parce que ça marche quand même en communauté.
Oui, ça marche.
Dans le partage. Mmh. À partir du moment où tu trappes, un truc très simple, maintenant qu'on est vieux, tu rappiques dans un concert de groupe de jeunes, et ben, je connais plein de gens, ça fait flipper. Genre, où sont mes potes? Alors que la musique n'est pas si mauvaise, c'est juste qu'ils sont dans une autre génération. Mmh. Et je pense que c'est à peu près pareil pour l'époque.
C'est valable dans l'autre sens aussi. Hein.
Ça marche là. Non, attends, je peux prendre ton micro. Ouais, j'ai juste une anecdote sur le monsieur qui vient de parler. On est en 87, je crois. Je fais un concert des BRU avec les potes et on est content, on tombe sur Marsu et on la ramène un peu trop en disant il y a trop de monde qui ne ressemble pas, en fait, ça ne veut plus rien dire les BRU. Et on lui dit ça en disant qu'effectivement, la multiplication du public avec beaucoup d'étudiants, alors que nous étions des petits bourgeois quand même. Voilà. Mais nous, on était là avant, quoi. Et il m'a dit, c'est vraiment une des premières fois que je l'ai rencontré, il m'a dit qu'on était juste des petits snobs de merde et qu'on allait arrêter de la ramener, que c'était bien parce qu'il y avait plus de gens qui venaient au concert, etc. Mais je me dis que finalement, on a souvent tous un peu les mêmes réactions débiles, voilà, d'appropriation du groupe et de... Voilà. Alors que je suis bien d'accord, effectivement, c'était pas forcément les albums préférés pour moi. Mais moi, c'est concerto, donc bon.
Donc du coup, il y a psychanalyse et autocritique.
Ok, on prend une toute dernière petite question avec une petite réponse, s'il te plaît, pour qu'on puisse écouter la communication.
Justement, tant qu'on est dans l'exercice de la subjectivité, je voulais juste savoir si cet album Macadam Massacre avait changé quelque chose dans ta vie personnelle, et si oui, qu'est-ce que ça avait changé dans ta vie?
C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est pas l'album Macadam Massacre qui a changé un truc précis dans ma vie. C'est, je pense, et je sais pas si ma réponse est très intéressante. C'est je dois avoir, quand Macadam Massacre est sorti, je ne sais plus, je sais pas, 15 ans, quoi, ou 16 ans, je ne sais plus. Je suis très mauvais en calcul mental. Et voilà, c'est un âge, il y a ma vie personnelle, mes rapports avec mes parents, avec mon environnement, avec ce que je suis. Il y a mon ouverture confuse à la politique. Il y a des ressentis, il y a des liens avec d'autres gens, il y a forcément une angoisse, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Et c'est un âge où tu te poses 1000 questions, où tu as besoin de trouver ta place. Et Macadam Massacre, il arrive à un moment, je sais pas comment dire, il met en avant une telle angoisse, une telle peur, une telle souffrance, qu'il t'aide paradoxalement à te sentir mieux. Et c'est pas l'album qui a provoqué ça chez moi, c'est une de ces petites pierres qui a pu m'aider à exorciser des choses, à saisir quelques références, à être curieux, à essayer de les chercher, à me sentir moins seul aussi, sans doute. Hein. Et voilà, après, répondre à la question, qu'est-ce que ça aurait changé dans ma vie précisément ? J'en ai aucune idée, je ne sais pas. Mais c'est un ensemble, et ce n'est pas le seul album qui a été important pour moi à cette époque, hein, mais c'est un ensemble de petites pierres qui se posent, dans lesquelles tu trouves, même inconsciemment, des réponses à tes questionnements. Et parfois, il y a des choses que tu interprètes, et ce n'était pas du tout ça ce que la personne voulait dire, mais ça, ce n'est vraiment pas grave, en fait. Et en fait, voilà, il y a toutes ces petites choses qui arrivent et qui te permettent de composer le puzzle de ta vie, quoi.
Okay, merci,
honnêtement,
Philippe.
Je ne sais pas si c'est très intéressant. Mais
peut-être que la communication suivante va nous apporter aussi des éclairages, puisqu'on continue dans le massacre. Peut-être. Merci, Philippe.